Bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Tiercelin, je suis responsable éducation au niveau national à la Ligue de l'enseignement. Donc, c'est moi qui vais animer cette petite table ronde qui va traiter donc plus particulièrement d'un des aspects que Yves va aborder sur la question du réinvestissement par les PEDT, des enjeux du sens et des finalités. Et notamment la contribution que le questionnement qu'on peut avoir sur les projets éducatifs de territoire peut avoir autour des enjeux notamment d'égalité et de citoyenneté. Pour aborder cette question-là, à partir à la fois d'exemples concrets et d'une approche un peu plus globale, nous accueillons donc deux témoins qui vont vous présenter un petit peu leur réflexion et ensuite avec qui vous pourrez échanger. Donc je vous présente d'abord David Proux. Donc David Proux, vous êtes adjoint aux questions d'enfance, de jeunesse, de loisirs et d'éducation à la ville de Saint-Denis. Je crois qu'il par ailleurs est une ville éducatrice. Et à côté de vous, donc, Éric Favet, qui est inspecteur général de l'éducation nationale et par ailleurs vice-président de la Ligue de l'enseignement, et qui a donc eu l'occasion, alors notamment à l'occasion des rencontres nationales de l'éducation à Rennes depuis 1998, où, en croisant nos regards avec nos amis des Francas aux rencontres des PEL de Brest, qui a eu l'occasion depuis longtemps d'avoir un regard un peu global sur cette question des projets de territoire et singulièrement ce que les projets éducatifs territoriaux ont pu impulser comme dynamique ces trois dernières années. Peut-être pour commencer un petit peu la réflexion autour de ces enjeux égalité, citoyenneté et contribution des projets éducatifs de territoire, je me tourne vers vous, David Proux, peut-être que vous nous présentiez un petit peu l'expérience que vous avez menée au niveau de la ville de Saint-Denis, la réflexion que vous avez pu mener, les actions concrètes qui en découlent.
Bonjour. Bonjour. Le PEDT de Saint-Denis s'est donné comme objectif la réduction des inégalités. C'est pas forcément quelque chose, comme ça a été dit, de très original, mais ça mérite... de dire pourquoi c'était une évidence dans une ville comme la nôtre. Je vais dire sur Saint-Denis trois éléments qui caractérisent cette petite bourgade du nord de Paris. Premier élément, Saint-Denis connaît depuis maintenant 20 ans, presque 20 ans, une croissance démographique exceptionnelle. Nous sommes aujourd'hui troisième ville d'Île-de-France. On est à plus de 110 000 habitants. Et on a connu une croissance en 17 ans. On a gagné 24 000 habitants en 17 ans. Ça fait une croissance de près presque 30%. Deuxième caractéristique de notre démographie, une population extrêmement jeune, 46% de la population a moins de 30 ans, ce qui nous amène, pose dans une ville, dans notre ville, un certain nombre de questions. Une croissance démographique forte avec une population jeune. Par exemple, nous avons dû, dans les 6 dernières années, construire un groupe scolaire par an. On a un phénomène de ville nouvelle qui est, pour ceux qui connaissent, ce qu'on appelle la plaine Saint-Denis, territoire avant industriel, après territoire de désindustrialisation et aujourd'hui territoire de reconstruction, de reconquête urbaine. Donc un défi... quantitatif déjà. Et deuxième élément qui caractérise Saint-Denis, c'est une ville populaire. Le revenu médian par unité de consommation, c'est 1000 euros. C'est-à-dire que c'est la moitié du revenu médian de Montreuil qui est, lui, au niveau du revenu médian de l'Île-de-France. C'est une ville d'ouvriers, d'employés. C'est une ville qui est fortement touchée par le chômage. 24% de la population est au chômage. Mais c'est une ville qui, depuis 15 ans, connaît aussi un phénomène de diversification de sa population. Ça reste une ville fortement marquée par le travail, une ville d'ouvriers, d'employés, mais avec un phénomène de diversification lié au fait que c'est une ville en construction, et donc avec des couches nouvelles qui se développent sur le territoire. troisième élément, c'est, on en a beaucoup parlé depuis un an, c'est une ville de métissage, une ville d'immigration, une ville où il y a plus de 130 nationalités représentées. Et selon l'INSEE, c'est 37% de la population qui est née à l'étranger. Ça ne veut pas dire étranger, c'est née à l'étranger. Et 70% de la population est française. Voilà, ces trois caractéristiques font qu'il y a dans notre ville un enjeu éducatif extrêmement fort et des attentes extrêmement importantes de la part de la population, de la part des couches populaires, parce que la conscience très forte que l'accès au savoir, l'accès au diplôme, l'accès à la connaissance est la condition pour les enfants des couches populaires d'accéder au travail, ou au moins de s'en sortir, comme on dit, est une conscience extrêmement forte, qui va d'ailleurs très très loin des discours stigmatisants sur la démission parentale ou le fait que il y a un désintérêt sur la question de l'école dans les couches populaires. Je crois que c'est très totalement faux. Voilà. Enfin, je crois que c'est quelque chose. Après, les parents peuvent avoir des problèmes avec les codes de l'école, avec mais la question de l'accès au savoir prend une place extrêmement importante dans les couches populaires. Attachement aussi dans les couches nouvelles de la ville. Voilà. Une partie de la croissance démographique de la ville s'explique par des gens de couche moyenne chassés de, je dirais, de Paris. Enfin, je n'aurais pas dit ça si Alexandra était encore là, mais enfin, en tout cas, qui ne trouvent plus à se loger à Paris, qui viennent vivre au-delà du périphérique, qui viennent vivre dans une ville populaire et pour lesquels. Ce choix-là ne doit pas avoir d'impact sur les conditions d'apprentissage de leurs enfants et les conditions d'éducation de leurs enfants. Donc un attachement très fort donc sur ces questions d'enjeux éducatifs. Une affirmation donc très forte d'une demande d'égalité de la part de la population. On a, nous, rédigé... Ma directrice d'enseignement est là, donc si je fais une erreur sur la date, elle me le dira. On a validé notre PEDT en 2014, Rosen, c'est ça ? 2 juillet 2015, voilà, donc je faisais bien. Ouais. Après une période extrêmement difficile sur la ville, qui, je le disais, on a une attente très forte, partagée par la population, les élus, y compris par l'éducation nationale. Et une déception très forte puisque l'année scolaire 2014-2015 a été marquée dans notre ville par une défaillance, un problème qui s'est, enfin, une série de questions qui se sont posées dès la rentrée 2014. 20 classes n'ont pas pu ouvrir par manque d'enseignants, la multiplication durant cette année de problèmes de remplacement qui ne sont pas liés à Saint-Denis proprement dit, qui sont un problème majeur sur la Seine-Saint-Denis et un recours massif aux enseignants vacataires. On a sur la Seine-Saint-Denis et sur Saint-Denis des enseignants qui sont extrêmement jeunes, qui sont marqués par un énorme turnover. Le Parisien, hier, racontait une anecdote qui circule dans les écoles de Seine-Saint-Denis, qui est certainement fausse, mais qui est que quelle est la personne la plus ancienne dans une école de Seine-Saint-Denis ? C'est l'élève de CM2. Donc, c'est pas juste, d'ailleurs, mais ça révèle quand même la question du très grand turnover d'enseignants, avec des éléments positifs et des éléments négatifs. Quoi. Donc une attente très forte, une déception qui a conduit à des mobilisations très fortes, qui a conduit même à une saisine du défenseur des droits, qui a reconnu une rupture du principe d'égalité dans le service public de l'éducation nationale. Donc un sentiment très fort d'inégalité de traitement, qui renvoie à inégalité d'accès au savoir, aux compétences, et ce qui est dans le dernier rapport du CNESCO sur le système éducatif est quelque chose qui est sur à la fois le fait que, bien que vous soyez en éducation prioritaire, vous avez moins de moyens que... alors, je ne reviens pas sur tout ce qui est dans le rapport du CNESCO. Hein. Avec une population scolaire extrêmement diversifiée, d'origine populaire, une offre éducative qui est ressentie comme n'étant pas égale, un sentiment des parents très, très déçus par rapport à ça. Et donc, l'évidence pour nous était d'avoir un PEDT qui se donnait comme objectif la réduction des inégalités. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, la question c'est de quelle inégalité nous parlons. La question de l'inégalité de traitement, elle existe, mais je crois qu'elle n'est pas ce qui nous guide. Nous avons, Jean-Yves l'évoquait tout à l'heure dans son introduction, le fait que nous sommes persuadés que pour nous, tous les enfants peuvent apprendre, tous les enfants peuvent accéder au savoir, tous les enfants y ont droit et le peuvent. Et que pour la question de l'égalité, ce n'est pas la question de l'égalité de traitement qui nous importe, c'est la question d'égalité des acquis, d'égalité des connaissances et ce que on a par exemple la question de la justice des besoins, enfin que c'est ça qui doit nous guider. Et à partir, peut-être pas à partir, mais avec un tel objectif, on voit bien que cette ambition ne peut pas se résumer à la question du temps scolaire, de la capacité de l'éducation nationale à faire face à une montée démographique sur la ville, à la capacité à se réformer, et que de toute façon il y a une question qui est collective quand on se penche sur ces questions. Et donc il nous semblait une évidence que l'objectif commun qu'on devait se donner à tous était cette question de la réduction des inégalités, d'autant que nous sommes une ville qui a des leviers pour ça. Nous sommes une ville par tradition politique du communisme municipal, il y a un service en France développé depuis de longues années qui va du service vacances avec des centres de vacances, qui va avec des CLSH développés dans toutes les écoles avec des locaux spécifiques. Des moyens. Une ville qui a des ressources en propre, ville de culture, ville de patrimoine, et que la question qui se pose, c'est de savoir comment on donne accès. Jean-Yves nous invitait à dépasser cette question, mais je partage qu'il faille la dépasser, et en même temps, elle est première. Voilà. La question de l'accès à ces structures, accès sur le temps scolaire comme sur le temps périscolaire, et c'est là où peut-être que la question du sens vient, c'est que si la question de développer les accès aux ressources du territoire se pose, sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire, ça n'est pas pour y faire la même chose. Et c'est certainement là un champ de travail. Quoi. Voilà, donc pourquoi enfin, l'égalité, je voulais dire ça, peut-être deux choses pour terminer qui sont pour illustrer cette question du besoin de prendre cette question de l'accès de tous au savoir de différentes façons et comment on a besoin justement que tous les acteurs aient un objectif commun, que les acteurs ne feront pas tous la même chose. Chaque acteur a son champ de compétences, son domaine d'activité, mais il est bon d'avoir cet objectif commun. J'étais récemment dans une pause méridienne que nous venons de faire passer en déclaration des DCS, et un animateur mettait en place une activité autour de jeux de société. Et cet animateur me dit, il avait la bonne paye, Cluedo, enfin rien de, et puis Abalone. Et cet animateur me dit, avec des enfants de CM, que les enfants présents là, c'est sur ce temps-là qu'ils ont découvert ces jeux de société. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui n'existaient pas dans les familles, qu'il n'y a pas d'habitude de jeu collectif dans la famille, et que c'est ce temps éducatif du midi qui permet cette découverte. Et je crois qu'au travers de cette illustration, on voit combien, enfin, quand on sait combien la question du jeu collectif est aussi un apprentissage et qu'elle favorise les apprentissages, on imagine combien cette complémentarité, ou au moins le fait, alors je parle pas parce que nous ne sommes pas encore au niveau d'une vraie complémentarité, c'est-à-dire j'aimerais que on puisse être à l'endroit où il y a un diagnostic commun et qu'on se dise, face à telle difficulté d'apprentissage, comment toi, sur le temps périscolaire, tu peux traiter ça, et est-ce que le jeu de société est en est, pour reprendre cet exemple. Je crois qu'on n'en est pas, enfin nous n'en sommes pas encore là pour notre part. Voilà. Mais on voit bien que là, de façon peut-être du hasard, il y a une vraie complémentarité qui peut se nouer. Et puis pour terminer, nous, un projet qui nous tient à cœur, je ne pourrais pas être là cet après-midi, mais c'est par exemple sur la question de la développement de la lecture. Dans une ville comme Saint-Denis, au regard de ce que j'en ai dit comme caractéristique, vous voyez bien que la question du défi de la lecture est énorme. Que vous avez une diversité de situations entre un enfant qui arrive avec 500 mots de vocabulaire et un autre ou 1000. Et, voilà. Et que là, il y a quelque chose à travailler. Nous avons, nous, depuis très longtemps, des clubs coup de pouce. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui se sont délitées. Mais je crois qu'on ne peut pas travailler une chose comme ça sans la penser de façon diverse. Comment on crée des conditions pour les enseignants, mais comment on relaye dans les centres de loisirs, comment, pourquoi pas, dans les crèches, voilà. Enfin, comment on fait que cette inégalité de proximité, de vocabulaire, tous ceux qui participent au temps de l'enfant participent à la réduction de cette inégalité. Voilà ce que je voulais dire en introduction.
Merci déjà de cet éclairage, effectivement, où on voit l'importance d'un choix politique et d'une volonté politique d'une ville pour essayer de définir effectivement cette question des objectifs communs. Et le travail encore que vous nous évoquez à mener encore sur la question des complémentarités entre les temps, les acteurs, les institutions éducatives. Éric Favet, quelle réflexion vous pouvez nous amener sur cette question des objectifs et de la contribution politique que peuvent avoir les PEDT à la question notamment de l'égalité et de la justice sociale?
Oui, je vais prendre quelques précautions peut-être avant de répondre à une question qui est une question un peu obsédante depuis un certain temps déjà, la question de l'égalité, de la justice sociale. renvoyer à la fois à l'univers scolaire et plus globalement maintenant à l'ensemble de l'univers éducatif, et ça en très peu de temps, finalement. La question que nous nous posons ce matin, elle était jusqu'à présent, pour l'essentiel, en termes de débat public, posée exclusivement à l'école. Et ça fait quand même très longtemps. Il faut rappeler que depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années, quelles que soient les majorités politiques dans le pays, chacune de ces majorités a tenté d'y répondre avec plus ou moins de bonheur. Et que notamment, les trois lois d'orientation successives, 89, 2005 et la dernière, 2013, ont pour ambition affichée, c'est dans leur préambule et dans un certain nombre de leurs développements, cette question de l'égalité. Alors, de l'égalité d'accès, ça vient d'être dit, au savoir, aux compétences, aux connaissances, quelque part aussi à des valeurs partagées. Enfin, voilà, il y a des formulations diverses depuis une trentaine d'années, mais on y retrouve cette constance. C'est donc bien que quand on se pose la question de l'égalité en matière d'éducation, elle était déjà posée du point de vue de l'éducation scolaire, elle est maintenant posée d'un point de vue plus général. Et notamment à travers ce qu'on pourrait appeler, ce que Yves a décrit, une forme d'extension du domaine public de l'éducation. C'est à ça que nous avons assisté en très peu de temps. En très peu de temps. Puisque cette question de l'égalité était quand même posée en dehors de la forme scolaire, notamment dans le monde associatif. Voilà. On peut penser que si notamment les mouvements d'éducation populaire se sont mobilisés depuis très longtemps dans un bâtiment du Front populaire, quand on reprend l'histoire des mouvements d'éducation populaire, c'est l'idée d'une égalité d'accès à qui motive une bonne partie de leur existence, de leur fondation, de leur création et de la manière dont ils complètent l'école ou dont ils organisent d'une manière autonome, parfois indépendamment de l'école, l'accès aux loisirs, aux vacances, à la culture, aux pratiques sportives, etc. Ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est une forme de syndication des intérêts, comme si on affichait une ambition collective, à la fois publique, et puis je dirais publique-privée, puisqu'aujourd'hui les familles ont aussi, ça vient d'être dit, je partage complètement ce qui vient d'être dit, cette question des familles démissionnaires n'a d'une part aucun sens, ou du moins si elle en a un, c'est un sens profondément méprisant, et c'est une certaine conception de la vie sociale, et puis elle n'a aucune réalité quand on connaît au contraire, on va dire parfois même, l'excès, si on peut le dire comme ça, de préoccupation des familles à l'égard de la réussite scolaire et de la réussite éducative. Donc ce qui s'est passé finalement en très peu de temps nous met en situation, je le dis sans aucune naïveté, évidemment, je ne nie pas les problèmes, mais d'un contexte quand même beaucoup plus favorable pour affronter cette question de l'égalité. C'est comme si nous étions, même si nous ne le formulons pas toujours comme cela, entre l'institution scolaire, les familles, le monde associatif, les collectivités territoriales et d'autres institutions, comme si nous étions mobilisés prioritairement sur cette question de l'égalité. Il y a donc un enjeu partagé assez évident. Et ce que Yves vient de nous livrer rapidement de cette étude du Pollock recoupe complètement les nombreuses études, et c'est assez inédit, qui, alors que les PEDT n'ont que 3 ans, marquent la volonté d'observer ce qui est en train de se passer. Je vous renvoie à ça parce que vous les connaissez, on les a toutes parcourues, on y a participé quelques fois. Dans l'année 2015, on a eu simultanément le rapport du comité de suivi des rythmes éducatifs, un rapport du ministère de la cohésion sociale, de la jeunesse et de la ville, un rapport simultané conjoint, je ne sais plus très bien comment on peut le dire, de la CNAF et de l'AMF, un rapport extrêmement intéressant et qui est passé un peu sous silence de France Stratégie, conduit notamment par François de Singly, qui s'intitulait « Pour un développement complet de l'enfant et de l'adolescent ». C'est un travail extrêmement intéressant, de contextualisation encore plus générale. Et tous ces rapports, en gros, sont quelque part tirés par le même enjeu et par le même défi de l'égalité. Ils ne débouchent pas tous sur les mêmes conclusions. D'abord, ils n'avaient pas les mêmes commanditaires. Et on peut penser que quand il y a un rapport, le commanditaire cherche toujours à justifier plutôt sa place. Donc, c'est intéressant justement de les croiser pour voir ce qui les relie. Et étonnamment, ce qui les relie, c'est quand même assez proche de ce que Yves vient de nous livrer, des conclusions de l'étude de Pollock, et j'y reviendrai. Et puis, sous la forme, je dirais, d'une boutade, moi, il me semble que ce qui a aussi considérablement changé et qui doit nous interroger sur, quelque part, à la fois l'action publique et l'action politique, c'est comme si nous étions dans un pays où il ne faut surtout pas rendre obligatoires les choses pour qu'elles deviennent finalement du droit commun. Il n'y a aucune obligation de mettre en œuvre des PEDT. Finalement, le législateur, dans la loi d'orientation, aurait pu se limiter à réorganiser les temps scolaires pour favoriser de meilleures conditions d'apprentissage et répondre à la question de l'égalité uniquement par rapport à une école dont on sait qu'elle est encore profondément injuste et marquée par le déterminisme social et par ce qu'on pourrait appeler la démocratisation ségrégative, comme en parle Pierre Merle. Voilà. Et il y avait dans la loi d'orientation une forte incitation à poursuivre l'investissement à la fois volontaire et public sur le périscolaire. Les circulaires progressives, les deux ou trois qui ont complété ça autour des PEDT, ne sont que des circulaires incitatives. Il n'y a aucune obligation de mettre en œuvre un PEDT. Or, nous sommes passés, alors, on ne connaît pas bien les chiffres d'origine, mais vraisemblablement à 1,5 million d'enfants et de jeunes, d'enfants plutôt, concernés par, on va dire, le périscolaire, aujourd'hui à 4,5 millions, multiplié par 3. En 3 ans, avec de fortes incitations financières sans doute insuffisantes, avec une mobilisation public plus que volontariste parfois, mais on rêve ou on rêverait qu'un certain nombre de politiques qui relèvent de l'obligation aient aujourd'hui autant, je dirais, de succès, au moins en termes quantitatifs. Hein. Je veux rappeler, puisque je parle ici au nom de l'institution tout en n'étant pas schizophrène, en assumant aussi mon autre casquette, que par exemple, dans la loi d'orientation de 89, il était fait une référence explicite à une obligation sur la question des cycles, et que ces cycles-là n'ont concerné à peu près 15 à 20% des écoles 20 ans après, et qu'il a fallu en reparler dans la loi d'orientation dernière pour qu'on tente de faire en sorte que ça devienne une obligation dans les pratiques pédagogiques et les pratiques de l'école. Et si je l'évoque, c'est que nous savons précisément que cette question des cycles est directement liée à l'égalité d'accès meilleure ou renforcée à la question des savoirs et des apprentissages. On prend plus de temps pour mieux apprendre. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a là un enseignement, mais je referme la parole, ce sera un sujet plutôt pour les étudiants de Sciences Po ou pour ceux qui s'intéressent à la conduite des politiques publiques, mais un enseignement intéressant en matière de politique publique. Alors, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer de dire sur la question de l'égalité des politiques éducatives territoriales ou de l'ambition d'égalité, sans doute d'une nouvelle étape à franchir? La première, c'est, je ne le dis pas pour inviter à la prudence, hein, mais on est dans un monde qui a une espèce d'obsession du résultat qui va finir par nous jouer beaucoup de tours. Quoi. En matière éducative, entre guillemets, la productivité est de l'ordre de 10 à 15 ans minimum. Vouloir mesurer aujourd'hui les effets en termes d'égalité, alors d'accès ou d'égalité de place sur un territoire, c'est pas tout à fait la même chose, ou de reconnaissance sur un territoire de tous ses habitants, et notamment des petits habitants que sont les enfants et les jeunes, on en mesurera les effets à l'évidence que sans doute dans une dizaine d'années. Voilà. Donc faisons attention à ce que notamment cette obsession du résultat, qui pervertit d'ailleurs très souvent la conception qu'on a de l'évaluation, ne nous amène pas à tirer des enseignements trop rapides de ce que nous contribuons à mettre en place tant dans l'école que dans l'univers du périscolaire ou dans l'évolution des pratiques du monde associatif ou des collectivités territoriales. Tout ça ne doit pas nous enlever, on va dire, cette ambition collective de relever aujourd'hui le défi de l'égalité qui, encore une fois, se pose à l'école et se pose aujourd'hui concomitamment ou conjointement entre l'école et tous les acteurs éducatifs. Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas le sujet, donc je ne le traiterai pas. Mais il faut rappeler que ce dont nous parlons est la conséquence d'une volonté de traiter la question de l'égalité d'accès au savoir au sein de l'école par une réorganisation des temps scolaires. Et par le retour aux 9 demi-journées, par la possibilité d'étaler les apprentissages sur des temps plus favorables pour cela. Puisque la France avait cette particularité d'être le seul pays de l'OCDE à avoir, nous le savons, les journées les plus longues sur les semaines les plus courtes et dans une année parmi les plus mal organisées de toutes les scolarités des systèmes. C'est un aspect qui n'est pas négligeable de la question et nous y reviendrons peut-être parce qu'il y a en arrière-plan de ça ce que nous disons entre l'institution scolaire et les objectifs qu'elle s'était fixés à travers ce réaménagement et aujourd'hui la prise en compte des temps éducatifs périscolaires. Et on voit bien, et Yves y a fait référence, que parmi les enseignements qu'on peut tirer de toutes les études que j'ai évoquées, il y en a quand même un, c'est que ça ne parle pas beaucoup entre le monde scolaire et le monde périscolaire. Ah, ça parle peut-être mieux, il y a des occasions de dialogue qui s'installent progressivement, mais voilà, on est plutôt dans l'ordre de la cohabitation, plutôt pacifique aujourd'hui, après des moments d'échauffement assez importants, au moment notamment de la mise en œuvre des PEDT, ou de ce qui n'en était pas encore avant. Voilà, c'est moins conflictuel. Il y a d'ailleurs eu, au passage à cette occasion, parfois le sentiment qu'enfin on reparlait ensemble d'un certain nombre de choses. Hein. Il faut toujours voir derrière, y compris la conflictualité, une dimension très positive, hein, quand on en fait quelque chose. Finalement, c'était l'occasion de mettre la question de l'école et de l'éducation parfois au centre du débat local, et une espèce de réintéressement collectif sur ces questions-là, là où jusqu'alors chacun se posait les questions dans son propre camp, la famille, l'école, le périscolaire, la collectivité, le monde associatif. Là, on a eu assez souvent, je crois, et peut-être plus souvent qu'on ne l'imagine, l'occasion de se reparler collectivement, ce qui n'a pas pour conséquence de l'action collective, collaborative ou coopérative qui est celle dont on pourrait rêver. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est comment on passe, maintenant qu'on est dans un contexte beaucoup plus apaisé, où il y a une forme de conscience collective qui semble émerger plus fortement, des enjeux, et notamment de la question de l'égalité, comment on essaie de faire en sorte que les actions des acteurs convergent mieux, que les questions communes soient posées aussi d'une manière plus précise, et pas simplement en termes d'intention, et comment elles se traduisent, ou comment on a l'ambition qu'elles se traduisent, notamment en objectif d'égalité, par des progrès réels. Voilà. Derrière l'idée du projet éducatif de territoire, il y a quand même ce que nous mettons, j'imagine, tous les uns et les autres derrière le terme de projet, c'est-à-dire une volonté transformatrice de la situation. Hein ? Si le projet n'est que la collection de l'existant pour essayer de mieux l'organiser, de telle sorte que les locaux soient mieux utilisés, le personnel mieux utilisé, et qu'on soit plus tranquille entre nous, c'est quand même un projet qui a une ambition relativement limitée. Il s'agit donc de transformer une situation, comme ça vient d'être dit dans l'exemple de Saint-Denis. C'est-à-dire, prenons en compte la réalité d'un territoire, qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour que, notamment en termes d'égalité, alors d'égalité d'accès, mais aussi de ce que l'égalité suppose en arrière-plan en termes de pratique aussi, qu'est-ce qu'on peut voir progresser d'une manière significative, ce qui d'ailleurs nous impose d'introduire la question de l'évaluation, non pas au terme du projet, mais en permanence dans la conduite du projet. Et d'intégrer, on va dire, alors j'aime pas trop le terme d'indicateur, moi, mais bon, comme c'est le vocabulaire consacré, prenons-le en charge, les indicateurs dès l'élaboration du projet. Que voulons-nous vérifier dans la mise en œuvre du projet, entre acteurs collectivement et à la place de chacun des acteurs, comme étant significatif du progrès réalisé sur un territoire, par exemple en termes d'égalité dessus. Voilà. Alors après, la question est de se mettre d'accord sur l'égalité d'accès à ce qui, d'ailleurs, me fait dire qu'il y a un terme dans la loi, et dans les circulaires, par contre, c'est pas dans la loi, c'est plutôt dans les circulaires successifs sur les PEDT, qui est un terme qui est un peu un piège aussi, quelque part, et ça n'est pas qu'un piège sémantique, c'est celui de l'offre éducative. Pour ma part, je pense qu'on devrait s'en débarrasser. C'est un peu comme les termes qui maintenant se sont installés et qui sont, pour moi, je trouve, des signes, comment dire, d'une espèce d'impuissance collective partagée. Le terme de défavorisé, par exemple. On s'est habitué à ces termes-là. En République, il n'y a pas de faveur. Il n'y a que des droits. La faveur, c'est le propre d'Ancien Régime. Il n'y a que des droits dessus. Et l'enjeu d'égalité, c'est l'enjeu de l'accès aux droits. Voilà. C'est pas non plus, j'ai entendu sur le sujet, la question des chances. Voilà. Elles sont donc l'égalité, la chance au loto et la Française des Jeux, et laissons la défaveur à l'Ancien Régime. Voilà. Ce qui nous importe, c'est la question du droit. Alors, du droit commun concernant l'école, puisque nous avons une obligation collective qui est l'obligation nationale du droit à l'instruction, dont la traduction est notamment la mise en œuvre d'une politique publique et d'une institution publique pour y répondre. Liberté étant laissée aux familles éventuellement de mettre en œuvre leur obligation d'instruction aussi dans d'autres systèmes, privés, personnels ou en famille. Ce qui nous intéresse là, c'est que l'institution publique remplisse son obligation d'égalité d'instruction, pas simplement en accueillant collectivement, avec le concours des collectivités, dans les mêmes murs, sous les mêmes toits, tous les enfants, mais de faire en sorte qu'effectivement, ce qui s'y passe en termes d'instruction, donc d'égalité d'accès au savoir, aux connaissances, aux compétences aujourd'hui, soit véritablement acquis. Alors, Malheureusement, dans ce genre d'échanges, on ne peut pas trop, je dirais, revenir, mais ça va être l'objet plutôt des ateliers, sur ce qui, sur les caps ou les pas qui ont été franchis, sur la qualité de ce qui se met en place. On discutait tout à l'heure par rapport à une expérience lyonnaise qui s'est présentée tout à l'heure. Je dirais, dans les moments dans lesquels nous sommes aujourd'hui dans notre pays, il me semble qu'on aurait quand même vraiment intérêt collectivement à mettre des gros coups de projecteur sur les choses réussies au plan local. Je vous le dis comme ça parce qu'on est quand même dans un état de stationnement, dans une espèce de mélancolie qui a ses justificatifs, il y a quelques dangers qui guettent, mais qui montre qu'on a tout intérêt, non pas à se rassurer ensemble, mais à s'assurer ensemble. Voilà. Et de dire c'est possible. Voilà. Et dans certains endroits, c'est déjà parti. Nous y sommes parvenus. Et l'ambition d'égalité, on n'est pas encore complètement sûr qu'on y est parvenu, mais il y a des choses qui se passent avec un certain nombre justement d'indications sur le territoire qui montrent que cette question éducative est mieux prise en charge. Reste, je dirais, un certain nombre de questions en suspens, et je voudrais simplement terminer là-dessus par rapport à ce qu'Yves évoquait, qui devrait nous permettre peut-être d'aller un peu plus loin sur cette ambition, je dirais, d'objectifs d'égalité à travers le soin collectif que nous apportons à aider les enfants à grandir ensemble sur un même territoire. La première question qui nous est posée, qu'on peut aussi peut-être qualifier de faiblesse aujourd'hui ou de trop grande faiblesse, c'est le lien au sein des PDT entre, on va dire, la vie de l'école, le projet de l'école et le projet éducatif de territoire. Il y a là, sans doute des contre-exemples, et appuyons-nous dessus pour montrer que c'est possible et qu'il ne s'agit pas de confondre les rôles, de confondre les genres, etc. Ça vient d'être dit, la fonction de l'école n'est pas la fonction du périscolaire. On ne fait pas dans un centre éducatif local, dans un centre social ou dans une association la même chose qu'à l'école, ce qui ne veut pas dire que ça ne converge pas vers le même objectif, ou qu'il n'y a pas une espèce d'appui réciproque. À l'évidence, ça ne discute pas beaucoup, ou quand ça discute, c'est plutôt pour gérer des problèmes d'occupation collective des mêmes locaux, par exemple, ou des mêmes espaces, pour se passer quelques emplois du temps pour que les familles soient au minimum renseignées sur ce que les enfants vont faire dans l'étape, mais on doit travailler cette question, sinon, quelque part, nous allons nous priver d'un vrai levier sur la question de l'égalité, il me semble. Et nous savons, le terme a été utilisé, je crois, à travers, par exemple, 1001 territoires, mais sans doute aussi d'autres opérations qu'on ne connaît pas suffisamment, qu'il faut mettre en lumière ce qui est nécessaire d'activer comme lien, pourquoi il faut le faire. La deuxième faiblesse, au moins le deuxième questionnement, je dirais que c'est sur la question de la place des acteurs en général. Et ce n'est pas tant la place des acteurs, je dirais, dans le fonctionnement des choses. On voit bien que là, on est en train de s'organiser. J'étais il y a une dizaine de jours dans un lieu qu'Yves connaît aussi à Dax, dans le département des Landes. On voit bien que ça va très très vite, l'organisation entre les acteurs. Parfois, c'est une simple conciliation locale, mais souvent, c'est beaucoup plus... Pour moi, derrière l'enjeu de la place des acteurs, il y a la place des habitants. Alors, on sait que c'est une constante dans nos interrogations en termes de politique publique et dans nos interrogations en termes d'égalité, de justice sociale, de démocratie, etc. Mais cette place des habitants, on le sait aussi, quels que soient les efforts que tout le monde fait pour s'informer réciproquement, elle ne résout pas le fond de la question qui est comment les habitants se considèrent localement comme les habitants d'un territoire ayant leur place, leur reconnaissance possible et leur jeu d'acteurs aussi. Alors il y a certes toute la phase de concertation, de coélaboration, de diagnostic, de co-construction et puis sans doute d'évaluation après. Je trouve qu'on devrait aussi revenir à des questions que nous étions posées dans d'autres moments. Arnaud a parlé des rencontres de Brest et de Rennes, par exemple. C'est comment on ne rate pas dans l'évolution à venir des PEDT, en termes de présence éducative et d'acteurs éducatifs, la place que les habitants eux-mêmes peuvent y avoir. Et notamment, je vais être plus précis, comment, aux côtés des équipes professionnelles qui se mobilisent dans cette affaire, animateurs, nouveaux métiers émergents, etc., nous travaillons à faire une place aussi aux talents et aux passions locales que des habitants veulent faire partager aux enfants, qui sont parfois leurs propres enfants, qui sont leurs petits-enfants, ou qui sont les enfants qui habitent le même territoire. Ça n'est pas facile. Il y a là des enjeux, y compris des enjeux très matériels, par exemple, qui pourraient laisser penser qu'il va y avoir une contestation à la montée en charge de l'emploi. Là, aujourd'hui, notre pays a besoin de produire de l'emploi. Donc, toute intervention d'un bénévole, par exemple, est vécue comme une contestation, parfois, d'un emploi. Voilà, ça peut être source de conflit. Or, l'enjeu n'est pas là, dessus. C'est effectivement l'enjeu de l'estime qu'un territoire porte à ses habitants et de l'estime que les habitants portent à leur territoire, hein, et de la place qu'ils y occupent. Troisième question, qui n'a pas été évoquée, mais ce n'était pas l'objet de l'enquête. J'ai l'impression que nous ne considérons pas suffisamment l'enjeu de la circulation sur les territoires aujourd'hui, de ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle toujours parfois, l'enjeu de la mobilité. En gros, on constate quand même que beaucoup de PEDT, mais parce que c'est le début, hein, entre guillemets, se consacrent déjà aux enfants là où ils sont, pour ce qu'ils sont, sans souci véritablement de prendre en compte la globalité territoriale, même parfois à l'échelle d'une même commune. Alors, il y a derrière des enjeux économiques et pratiques, notamment ceux des transports, mais permettre la rencontre des enfants pour faire ensemble un certain nombre de choses entre le centre et les quartiers, entre des activités qui sont sur des territoires ruraux et ceux de la ville. Bref, vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière. C'est l'enjeu de l'ouverture culturelle et des représentations, et pas simplement de l'ouverture physique. C'est l'enjeu des représentations symboliques aujourd'hui. Et on voit les risques qu'il y a à continuer à être dans une société où chacun se sent assigné à résidence, se sent bien dans son assignation, et ne considérera donc de fait l'autre que comme même pas un inconnu, un étranger, mais un danger potentiel. Voilà. Donc cette question de la circulation, ça a une dimension très pratique dans les PEDT. Hein. C'est comment les activités qui sont déjà compliquées à organiser sur le site même de l'école ou du périscolaire, on y ajoute une complication supplémentaire ou un enjeu supplémentaire en disant il faudrait aussi que de temps en temps les enfants circulent sur le territoire qui est le territoire commun de leur commune ou de leur de manière plus vaste aussi sans doute. Hein. Et puis quatrième, ça a été signalé, je n'y reviens pas parce que je crois que c'est aussi l'objet d'atelier, c'est la place des enfants eux-mêmes dans les la place des enfants eux-mêmes. En gros, nous avons tous beaucoup discouru sur le sujet. Pour certains mouvements d'éducation populaire, la question de la place des enfants est même centrale dans leur création même et de leur fondation. Et nous voyons bien quand même, là je prends un peu mon autre casquette, comment nous-mêmes, mouvement éducatif et mouvement d'éducation populaire, sommes parfois pressés par des modalités pédagogiques qui font assez peu de cas de la place des enfants. Un peu comme si la forme scolaire et comme si la forme de l'offre éducative venait prévaloir et presser terriblement d'autres formes éducatives qu'on a su inventer et qui se sont développées, où les enfants sont les acteurs eux-mêmes d'une partie, voire de la totalité, des activités éducatives qui leur sont destinées. Voilà. Il y a là, je dirais, à la fois un enjeu, entre guillemets, démocratique, si on est un petit peu large, mais plus particulièrement aussi, un véritable enjeu éducatif du partage du monde commun et de la place que les enfants après, de la considération dont ils seront eux-mêmes l'objet et des responsabilités même, hein, du sens des responsabilités qu'ils vont prendre. Et puis dernière question, voilà, c'est pas une faiblesse, c'est un mauvais terme, que nous n'avons à mon avis pas les moyens aujourd'hui de suffisamment mesurer, parce qu'encore une fois on est dans la naissance même de tout cela, c'est l'écart qu'il y a d'affichage entre les intentions et leur traduction en termes, par exemple, de valeurs dans la conduite même des activités ou la conception même de l'organisation des activités. En gros, c'est le grand écart qu'il y a entre l'édito du projet éducatif de territoire et la conduite des activités derrière. En gros, je ne connais pas de projet éducatif de territoire, mais c'était la même chose avant et c'est toujours la même chose dans le cadre d'un projet éducatif local où l'édito, alors on va dire du maire, ou de l'adjoint à l'éducation, ne présente pas comme ambition du projet éducatif local l'accès à la citoyenneté, le partage des valeurs communes. Alors en plus, après les drames que nous avons vécus en 2015, on en a rajouté une couche en 2016, l'égalité, la fraternité, la liberté, la laïcité, évidemment, qui ne consiste pas à donner double ration de frites à tout le monde. Voilà, tout ça est affiché sans doute d'une manière encore plus vive, encore plus claire. Voilà, Est-ce que ça a une traduction réelle sur la manière dont ces valeurs s'incarnent dans les activités auxquelles les enfants vont participer? Je crois qu'il faut vraiment prendre cette question au sérieux si nous ne voulons pas que la question des valeurs ne soit qu'un alibi porté exclusivement en période dramatique et qu'on oublie après, notamment quand l'enjeu est effectivement l'enjeu de l'égalité. Voilà. Et que ça peut prendre une forme extrêmement explicite, tout ça, et notamment, il me semble, quand les projets éducatifs de territoire permettent de partager un enjeu commun sur le territoire entre les différents acteurs, qui est un enjeu, je dirais, clairement établi. Voilà, clairement établi. Alors, je ne prends qu'un exemple et j'arrête là-dessus. On l'a tous entendu récemment, cette enquête, alors, je ne sais pas si c'est l'INPES ou si c'est l'INSERM, qui révèle que 40% des jeunes adolescents en France ont perdu en 10 ans 25% de leur capacité cardio-respiratoire. C'est le genre d'information qui passe comme ça entre les réfugiés et les frasques de tel ou tel. Voilà. Bon, à part, je trouve que c'est une information extrêmement importante. Si c'est vrai, il n'y a aucune raison de ce que ce ne soit pas. Une étude conduite longitudinale sur un échantillon important. Si ça, ce n'est pas un enjeu commun des éducateurs en termes d'égalité localement, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un enjeu commun. D'accord. Parce qu'on voit d'où ça vient, notamment la sédentarisation, le reflux systématique de tout déplacement et de toute activité physique. Ce n'est pas simplement la question du sport, c'est la question de l'activité physique, liée à un certain nombre de pratiques se développant qui sont des pratiques culturelles sédentaires, où la mobilité n'est qu'une mobilité des écrans, mais il n'y a plus de mobilité physique, il y en a beaucoup moins. C'est la cause principale de cela aujourd'hui. C'est donc une responsabilité ou une interrogation commune à avoir entre les parents, entre l'école, entre le centre de loisirs, entre le périscolaire, etc. Voilà. Comment est-ce que nous pouvons nous emparer d'une question comme ça, l'afficher comme une ambition, non pas comme un drame, mais comme une ambition et un défi à relever, et en faire, en traduction réelle et concrète, un objectif partagé avec un affichage partagé aussi de ce que chaque partie prenante du projet éducatif de territoire prend en charge dans ce travail-là, en ayant pour certains, pour l'école, des obligations pour le faire, d'ailleurs, c'est dans les programmes, tatati, etc., et puis pour l'autre, une traduction dans l'évolution, y compris des modes de vie parentale et familiale, dans les modes de déplacement pour aller à l'école ou ailleurs, dans l'étape, cette prise en compte-là, notamment dans les activités physiques, qui ne sont pas que des activités sportives, mais il y a des fortes dimensions autres derrière, dans la politique municipale également, y compris de transport, de mobilité, voilà. Et donc je prends cette question-là, il pourrait y en avoir d'autres, parce qu'elle est dans l'actualité. Je pense que si nous affichions, entre guillemets, des objectifs parfois mieux partagés, et avec une volonté de rendre, entre guillemets, transparent la manière dont chacun va y contribuer, y compris d'ailleurs en renforçant les capacités communes d'y contribuer par une action convergente, on aurait plus de chances de ne pas encore creuser l'écart entre les intentions affichées, notamment d'égalité, et la réalité de ce que nos concitoyens vivent sur leur territoire.
Merci Eric. Merci à vous de ces éclairages. Moi, je retiendrai effectivement cette invitation que tu nous faisais à développer un principe de cohérence entre les valeurs politiques affichées, la manière qu'on a de les partager et surtout la manière qu'on a de penser des actions communes en cohérence au-delà des logiques d'affichage. On voit qu'il y aurait plein de fils à tirer. Tu en as tiré quelques-uns sur la question de la citoyenneté démocratique, hein, les logiques participatives que Yves aussi avait déjà identifiées comme point de fragilité, un point de difficulté en tout cas de nos projets de territoire, et puis surtout l'importance du temps long pour penser ces transformations-là après cette phase de la gestion d'urgence dont on voit bien, notamment avec l'exemple de Saint-Denis, à quel point elle a pu présider cette phase particulière de la question des projets de territoire.